Ensuite, à Antonin le Pieux succède un empereur qui s'appelle Marc Aurèle et qui est appelé l'empereur philosophe. Donc lui, il est empereur de 161 à 181 à peu près, et il fait aussi partie de la dynastie des Antonins. Lui, il est très proche de Rabbi Yehuda Hanassi, donc celui qui a mis par écrit la Mishnah, puisqu'ils ont vécu à peu près la même période. Et d'ailleurs, la Gemara nous rapporte une histoire intéressante à propos de leur première rencontre. À cette époque-là, donc à l'époque de la naissance de Rabbi Yehuda, Rabban Shimon ben Gamliel est donc le chef du Nassi, et il fait la Brit Mila à son fils Rabbi Yehuda. Comme toujours, Rome l'apprend et le convoque avec son bébé pour voir si c'était vrai qu'il avait circoncis. En route pour aller à Rome, il s'arrête dans une auberge, il croise là-bas un couple romain et qui prend pitié de ce bébé-là, et il décide d'échanger leur bébé, leur propre bébé, donc ce couple romain, avec l'enfant de Rabban Shimon Gamliel, le temps d'aller à Rome et le présenter à l'empereur romain. Ce qu'ils font donc, Rabban Shimon Gamliel se rend à Rome, il montre un bébé donc incirconcis, et lorsqu'ils reviennent à l'auberge, ils rendent le bébé et récupèrent leur fils qui était Rabbi Yehuda Hanassi. Il se trouve justement que ce bébé-là est devenu plus tard Marc Aurèle, cet empereur-là. Il y a d'ailleurs une discussion, est-ce que c'est réellement cet empereur-là que Rabbi Yehuda Hanassi a connu? Il y en a certains qui disent même que ce n'était pas un empereur, mais seulement un gouverneur. Bon, en tous les cas, c'était quelqu'un de très important dans le gouvernement romain, et c'est ce bébé-là qui devient ensuite ce personnage important et qui devient l'ami de Rabbi Yehuda Hanassi. Lorsque, comme la Gemara le raconte, ils se rencontraient souvent, secrètement, et Marc Aurèle, ou ce gouverneur en question-là, demandait souvent conseil à Rabbi Yehuda Hanassi, qu'il appréciait énormément, jusqu'à qu'un certain jour, un jour, il lui dit « J'aimerais être, il dit à Rabbi Yehuda Hanassi, j'aimerais être un jour ton paillasson dans le monde à venir. » Juste que j'accède à ce monde-là. Voilà, donc ça, c'est pour tracer l'histoire. On est à présent, maintenant, à peu près en 180 de l'ère commune. Il nous reste beaucoup de choses à explorer sur cette période-là, une fois qu'on a retracé le fil général. Alors, pour commencer, on va faire marche arrière en parlant un petit peu des Tanaïm principaux. Donc, on a eu plusieurs générations de Tanaïm. On a eu la première génération qui était avant la destruction du Temple. Ensuite, on a une deuxième génération de Tanaïm qui est entre la destruction du Temple et la révolte de Bar Korba. Ensuite, on a une troisième génération qui est à l'époque de la révolte de Bar Korba, donc où il y a dedans Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria, comme on va le voir, juste la période d'avant, donc on avait aussi tous les Talmidim de Rabbi Yochanan ben Zakkai. La période d'après la révolte de Bar Korba, on a la quatrième génération, où dedans on a Rabban Shimon ben Gamliel, on a aussi Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, pour n'en mentionner qu'une partie. Et donc, on va revenir en arrière, juste après la destruction du Beth Amikdash, à peu près en l'an 80. Donc, on sait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, parmi les trois demandes qu'il avait fait de Vespasien, donc à part épargner Yavne et ses sages, il avait demandé aussi qu'on épargne la vie de Rabban Gamliel. C'était un descendant du roi David, un descendant de Hillel HaZaken. Et les Romains avaient peur que cela suscite une révolte, donc ils ont voulu annihiler la descendance de David Améler. Et lui, il a demandé qu'on laisse la vie sauve à Rabban Gamliel, celui qu'on appelle Rabban Gamliel de Yavne, qui est aussi mentionné au début de la Maseret de Brachot. Il avait un fameux serviteur qui s'appelait Tavi. Et donc lui, après, une fois que les choses se sont un peu calmées, après la destruction du Beth Amikdash, il est devenu président du Sanhedrin, à peu près en l'an 80. Et donc, ça tombe sur ses épaules de relever l'honneur de la Torah, l'honneur de la transmission de la Torah, comme on sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'est quelque chose qui était sur les épaules du Kohen, et la Keuna, donc le sacerdoce, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'était quelque chose qui est un peu délicat à la fin, vu que c'était les Hashmonaïm, et c'était un poste qui était souvent acquis par soudoiement des autorités de l'époque. Et donc l'honneur de la Torah était un peu bafoué, et ça retombe donc sur les épaules de Rabban Gamliel d'assurer cette transmission-là avec lui en tant que président du Sanhedrin. Donc au début, il a quelques difficultés à s'imposer. On sait qu'on a d'autres Tanaïm qui sont les géants de la génération à l'époque, qui le défient un petit peu. C'est des Talmidim, mais aussi de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Lui, il reconnaît que la nécessité que les décisions du Sanhédrin soient indiscutables pour pouvoir justement rétablir la transmission de la Torah comme il se doit. Alors, il arrive à s'imposer, il s'impose avec beaucoup d'humilité, mais ça fait quand même quelques vagues, comme on va le raconter tout de suite. Pour commencer, une petite histoire. On savait qu'à l'époque, pour sanctifier le mois, donc ce qu'on appelle Kiddush HaChodesh, pour établir Rosh Chodesh, donc le jour du nouveau mois, on faisait appel à des témoins. Il y avait des témoins qui se présentaient au Sanhédrin. Ils disaient, voilà, on a vu donc la nouvelle lune qui a pointé à tel et tel endroit. Donc selon les lois de l'astronomie, le Sanhédrin posait des questions bien précises à ces témoins-là pour voir est-ce qu'ils racontaient des bêtises ou pas, puisqu'on sait qu'il y avait des groupes dissidents du judaïsme qui essayaient de fausser la tombée des fêtes, puisqu'elles sont décidées en fonction de la sanctification du mois. Donc on leur posait un certain nombre de questions précises pour savoir est-ce que ces témoins étaient des témoins sur lesquels on pouvait se reposer. Et donc, une année, deux témoins se présentent devant Rabban Gamliel un certain mois, et Rabban Gamliel accepte leur témoignage alors qu'il y avait peut-être lieu de se poser des questions, puisqu'ils disent qu'un certain jour, ils ont vu la lune et que le lendemain, ils n'ont plus vu la lune. Or, si la lune pointe, elle commence à grandir au début du mois. Donc, si on la voit un jour, le lendemain, c'est sûr qu'on va la voir un petit peu plus grande, a priori. Et c'est la question que se pose Rabbi Dossa, un des grands Tanaïm de l'époque. Et il dit, est-ce qu'il serait possible qu'une femme soit enceinte un jour et qu'elle ne se le soit plus le lendemain? D'accord, vous comprenez ici l'analogie qui a à faire avec le fait que si la lune pointe un jour, évidemment, elle a grandi le lendemain et elle suit ce processus jusqu'au 15 du mois où là, elle recommence à rapetissir. Donc comment c'est possible que Rabban Gamliel ait accepté ce témoignage? Rabban Gamliel, évidemment, avait ses raisons. Et Rabbi Yehoshua, donc, donne raison à Rabbi Dossa et il décide de ne pas accepter la décision de Rabban Gamliel. Donc lui, il fixe le mois à un jour différent. Rabban Gamliel l'apprend que Rabbi Yehoshua, un des grands Tanaïm de l'époque et aussi membre de son propre Sanhédrin, n'est pas d'accord avec sa décision. Et il lui dit, écoute, il l'appelle pour se présenter devant lui. Écoute, d'après toi, donc, disons que d'après toi, Rabbi Yehoshua, d'après toi, Yom Kippour va tomber un lundi. Alors je veux que ce jour-là, tu viennes chez moi avec ton bâton et ta bourse d'argent et que tu te présentes devant moi. D'accord, on sait bien qu'on n'a pas le droit de transporter de l'argent le jour de Kippour. Et donc, par cela, il veut que Rabbi Yehoshua fasse marche arrière sur sa décision et qu'il se rallie derrière la vie de Rabban Gamliel, étant donné que Rabban Gamliel, c'est lui le nasi, donc c'est lui qui a le pouvoir de décider. Et il veut que Rabbi Yehoshua accepte sa décision. Alors, Rabbi Yehoshua est un peu scandalisé de cette demande-là et il prend conseil donc avec Rabbi Dossa et aussi Rabbi Akiva. Et effectivement, ils lui disent de se rallier derrière la vie de Rabban Gamliel. Il y a marqué que c'est le Bedin d'en bas d'ici-bas qui décide comment on fixe les dates des fêtes, comment on fixe les dates des mois. Et donc, il doit se rallier derrière la vie du Sanhédrin. Or, étant donné que Rabban Gamliel, c'est lui le chef du Sanhédrin, il a le devoir de se rallier derrière son avis. Donc, Rabbi Yehoshua décide de passer sur sa décision et de se rallier derrière la décision de Rabban Gamliel. Et il se présente donc devant Rabban Gamliel le 10 jours avec sa bourse et son bâton. Rabban Gamliel le voit arriver, il se lève, il l'embrasse sur le front et lui dit « Tu es mon maître et mon élève, tu es mon maître en sagesse et tu es mon disciple car tu as accepté ma parole. » Donc on voit que Rabban Gamliel n'a pas fait ça pour son propre honneur, il avait énormément d'humilité, il a fait ça pour que justement il n'y ait pas de discussion, pour que la transmission de la voix orale puisse se continuer sans heurts et à coups. Il y a aussi l'histoire, ce qu'on appelle le four de Arnaï, c'était l'histoire d'un four aussi, il y avait une discussion entre les sages, est-ce qu'il était pur ou impur? Et là-bas on voit que Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui était un des talmidim de Rabbi Yochanan ben Zakkai aussi, qui faisait partie aussi du tribunal de Rabban Gamliel, d'ailleurs c'était le beau-frère de Rabban Gamliel, et il a décidé de rester sur sa position, qui était contre la position des autres rabbanim. Donc Rabban Gamliel voulait trancher en fonction de la majorité. On sait qu'après Rabbi Mlatot, on tranche toujours selon la majorité. Or, Rabbi Eliezer n'était pas d'accord, et finalement, il est mis en idouille. D'accord, donc il est mis on le sort du Sanhédrin, en quelque sorte. De par sa tristesse, Rabbi Eliezer ben Azaria de ne pas être dans le Sanhédrin pour vous montrer un petit peu la force qu'ils avaient, la force et la sainteté qu'avaient les Tanaïm à cette époque-là. Sa femme fait en sorte de l'arrêter à chaque fois avant qu'il arrive à une certaine partie de la prière, tout simplement que si il exprimait librement la souffrance de ne pas se retrouver, de ne plus faire partie du Sanhédrin, à ce moment-là de sa prière, Rabban Gamliel serait mort sur place. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Un beau jour, elle a oublié de l'arrêter, d'accord, juste avant donc les supplications qui s'appellent Nefilat Apaim, dans la Tfila. Et elle oublie de l'arrêter et elle le trouve en plein milieu de cette partie de la prière-là. Elle fait « Arrête-toi, tu as tué mon frère ». Donc c'est pour vous montrer la sainteté, la puissance dans la sainteté des Tanaïm de cette époque-là. Rabbi Eliezer ben Hourkenos reste en Idou jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, il y a une histoire tragique où finalement, lorsque ces Talmidim qui arrêtent de le fréquenter, parmi ces Talmidim, on compte Rabbi Akiva, ils arrêtent de le fréquenter à cause de cette mise de côté-là, à cause de cette mise en quarantaine, de ce nidouille. Et lorsque Rabbi Akiva décide d'aller lui rendre visite, il lui dit « Pourquoi vous avez arrêté de me rendre visite pendant cette période-là » Et il lui dit « Justement, à cause de l'édit de Rabban Gamliel qui interdisait qu'on te voie. » Alors on lui dit « Tiens, ça m'étonnerait que tous mes élèves-là meurent d'une mort naturelle. » Et Rabbi Akiva lui dit « Et quel est mon sort? Qu'est-ce qui va se passer avec moi ?» Il fait « Ta mort va être pire que la leur. » Et c'est effectivement ce qui s'est passé là. On a dit que c'était un des 10 martyrs qui est mort dans des souffrances atroces. Donc on voit que vraiment s'amuser avec le kavod de ces rabbanim-là, c'était s'amuser avec le feu. Même Rabban Gamliel, et à un moment, il prend le bateau et il y a une tempête se déclare et il dit « Tu sais bien que, il dit à Kadosh Bokhu, tu sais bien que tout ce que j'ai fait, c'était pour ton honneur et que je l'ai fait en toute humilité et que ce n'était pas du tout pour mon honneur que je l'ai fait. » Là, la tempête se calme. Donc Rabban Gamliel avait pris les bonnes décisions, c'est ce qu'il fallait pour la transmission de la loi orale. Mais vraiment, porter atteinte au kavod de ces Tanaïm-là, c'était vraiment jouer avec le feu de par la sainteté qu'ils avaient.